Docteur Anne Deprin, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes généraliste et que vous avez une spécialité en tabacologie. Ça va être d'ailleurs notre thème d'aujourd'hui. Vous aviez fait une première émission où vous avez parlé des addictions de manière générale et aujourd'hui, on s'intéresse au tabac.
Exactement. Oui, donc du coup, je suis le docteur Anne Deprin. Effectivement, je suis médecin généraliste de formation et j'ai fait un diplôme de tabacologie. Du coup, qui voilà est spécifique pour l'accompagnement et la prévention donc en tabacologie. Puis sinon, je suis aussi addictologue donc de manière plus large. Et donc là, effectivement, le mois de novembre étant le mois sans tabac, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de pouvoir plus approfondir cette question du tabac, qui loin d'être une addiction douce comme quelquefois les gens le disent, finalement est l'addiction qui est la plus létale, hein, puisque les chiffres sont autour de 75 000 morts par an liés au tabac. Vous voyez, on est au-dessus du Covid, et ça, c'est tous les ans. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est important de pouvoir en parler. C'est une addiction qui, finalement, je vous dis, c'est celle qui touche le plus de personnes, qui représente le plus de coûts pour la sécurité sociale aussi derrière, et qui est une des plus, on va dire, sournoises, puisqu'effectivement, la toxicité apparaît souvent dans un second temps et puis de façon multiple en fait, parce que il n'y a pas de nocivité sociale non plus comme on peut avoir avec l'alcool, il n'y a pas de souci médico-légal, on va dire, ou judiciaire comme on peut avoir avec l'héroïne ou la cocaïne, voilà, puisque c'est un produit qui est réglementé, mais qui est autorisé, qui est légal. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on peut ne pas s'en méfier. Or, l'addiction, une fois qu'elle est installée, c'est fait partie des addictions les plus fortes en termes de dépendance, enfin d'intensité de la dépendance. C'est presque plus facile d'arrêter le cannabis que le tabac. Hein. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de signaler ça. Et puis, comme les complications, on va dire, ou les conséquences du tabagisme apparaissent souvent au bout de 20, 30, 40 ans, ou pas d'ailleurs, hein, parce que tout le monde n'est pas atteint, du coup, on s'en méfie pas, en fait. Et une fois qu'on se dit, bah, tiens, peut-être qu'il faudrait que j'arrête, en fait, on réalise que l'addiction est déjà très installée et que l'arrêter peut être assez... assez difficile. Alors, du coup, cette addiction au tabac, le principe, en fait, c'est comme toutes les addictions, elle repose sur une dépendance. Et donc, il y a une double dépendance. Il y a une dépendance à la fois physique. Donc là, c'est lié notamment à une substance qui est dans le tabac qu'on appelle la nicotine. Et donc, ce produit, donc la nicotine, quand il va arriver dans le corps, donc par le biais de la fumée, donc il va arriver dans les poumons, et puis là, il va pénétrer dans la circulation, donc... au niveau des poumons, qui arrive au niveau du cerveau assez vite, en quelques minutes, et voire même quelques trentaines de secondes. Et donc, il va arriver au niveau du cerveau, la nicotine va se déposer sur certains récepteurs qu'on appelle les récepteurs nicotiniques, qui sont aussi des récepteurs dopaminergiques. Et donc, quand la nicotine se fixe à ces récepteurs, il va y avoir une libération de dopamine. Et la dopamine étant une hormone de bien-être, en fait, il y a effectivement une sensation plutôt agréable qui va être liée à la libération de nicotine. Et donc, quand les gens disent effectivement « fumer me fait du bien » ou « fumer me calme » ou « fumer voilà », eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait juste, hein, puisqu'effectivement, il y a une sensation de bien-être, de soulagement qui est liée à la nicotine. Après, le souci, c'est que cette sensation-là, malheureusement, ne dure pas. Et donc, effectivement, très vite... il va y avoir de nouveau un besoin, une sensation de manque, etc. Et donc tout le principe de la dépendance va reposer sur ce qu'on appelle ce circuit de la récompense, qui fait que, en fait, quand on fume, on a un soulagement. Chaque fumeur, en fait, au fur et à mesure de l'installation de son tabagisme, va avoir besoin d'un certain, on va dire, degré ou un certain niveau de nicotine, et plus on a un besoin élevé en nicotine, plus on va être obligé de fumer de façon rapprochée pour avoir, entre guillemets, notre dose de nicotine, puisqu'effectivement, malheureusement, la nicotine a une demi-vie courte dans l'organisme. Donc, une fois que la nicotine passe dans le sang, elle va très vite être dégradée, et donc, on ne va plus en avoir beaucoup. Et donc, si on a un besoin élevé de nicotine, du fait qu'on soit un gros fumeur, etc., eh bien, dès que notre taux de nicotine passe sous notre seuil de satisfaction, en fait, sur le seuil dont on a besoin, eh bien, on va ressentir ce qu'on appelle des symptômes de manque, qui vont donc, entre guillemets, appeler à refumer pour, entre guillemets, aussi se recharger en nicotine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le principe de la dépendance physique qui fait que notre corps a pris l'habitude de fonctionner avec des substances, essentiellement donc la nicotine, et puis mais il y a d'autres substances qui renforcent cette efficacité de la nicotine, voilà. Et donc notre corps a pris l'habitude de fonctionner avec cette nicotine, et il va être comme un peu déréglé en fait, hein, et par rapport au système habituel de régulation, et donc il va, et si la nicotine manque, effectivement, notre corps n'est pas capable de se réadapter tout de suite. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle des symptômes de manque. Et donc, les symptômes de manque en nicotine, tous ceux qui ont essayé d'arrêter de fumer ou qui n'ont pas pu fumer pour des raisons X ou Y, d'hospitalisation, ou de se trouver dans un endroit où c'était interdit de fumer, eh bien, toutes ces personnes-là, effectivement, vont avoir des symptômes qui sont des symptômes de type de besoin de fumer, irritabilité. On peut avoir aussi de la nervosité, on peut avoir une augmentation de l'appétit, on peut avoir toutes sortes de symptômes, donc à court terme ou à plus long terme, qui sont liés au manque de tabac. Alors du coup, donc rapidement quand même pour les chiffres sur le tabac, on dit qu'en moyenne, il y a un Français sur trois entre les 18 et 75 ans qui est fumeur en 2019, qui est quand même une grosse diminution. Depuis 2017, on assiste à une diminution du nombre de fumeurs en France. On a, entre guillemets, perdu quasiment 1,6 million de fumeurs entre 2017 et 2019. Donc ça, c'est vraiment positif, hein. Sur ces 33%, il y a 25% de fumeurs quotidiens. Donc un fumeur sur quatre, à peu près, entre 18 et 75 ans, est fumeur quotidien. Donc c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Donc c'est vraiment une première, on va dire, bonne nouvelle. Après, afin de voir cette répercussion du baisse du nombre de fumeurs sur la baisse des nombres des maladies liées au tabac, ben là aussi, il va falloir attendre peut-être 15-20 ans, puisque je vous dis, il y a toujours ce délai entre l'entrée dans le tabagisme et l'apparition éventuellement des complications liées au tabac. Il y a vraiment un délai de plusieurs années. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut actuellement se réjouir de cette baisse de tabac? Il y a plusieurs faits en cause. Il y a le fait qu'effectivement, il y a un remboursement des substituts nicotiniques, hein, depuis 2019, donc c'est avec le tiers payant, donc c'est-à-dire tout médecin, infirmière, kiné, dentiste, sage-femme, pour les femmes enceintes et leur entourage. Voilà, toutes ces personnes-là ont le droit de prescrire des substituts nicotiniques qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Donc là, c'est vrai que du coup, l'accès aux substituts est facilité, hein. Auparavant, effectivement, les fumeurs étaient obligés d'acheter leur patch, ou enfin, on va en parler, et du coup, c'était un coût supplémentaire qui pouvait être un frein. Donc là, l'accès aux substituts a été une bonne, on va dire, en tout cas, fait partie de l'efficacité de ces campagnes. Il y a moins de jeunes à rentrer dans le tabagisme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Il y a peut-être une dénormalisation, on va dire, du tabac à l'adolescence, ce qui est positif. Les campagnes Moi sans tabac, qui ont lieu depuis 5 ans, là on est dans la cinquième campagne, hein, donc depuis 2016, 2017, 2018, 2020, depuis la cinquième année, tous les mois de novembre, sont consacrés au Moi sans tabac. Vous avez sûrement, vous n'avez pas échappé aux grandes affiches jaunes marquées en orange qui sont devant toutes les pharmacies, les différentes publicités, soit à la radio, soit à la télévision, voilà, qui vont œuvrer dans le sens d'accompagner les gens, en fait, au moins sur un mois, donc le mois de novembre, leur proposer un accompagnement donc sans tabac. Donc le mois sans tabac, c'est une campagne qui peut se faire encore, hein, on est encore en mois de novembre, donc par inscription sur internet, donc sur le site du mois sans tabac, et donc avec tout un accompagnement de conseils et surtout de conseils positifs, hein. Le but, c'est vraiment d'accompagner les gens et de valoriser leur démarche en leur mettant en avant tous les bénéfices qu'ils peuvent retirer. Donc on a dit que c'était un gros problème de santé publique, donc le tabac, d'où l'importance de toutes ces campagnes, hein, qui fleurissent et qui commencent a priori un petit peu à montrer leur efficacité, parce que donc sur les 75 000 morts par an dont je vous parlais, en fait en moyenne un fumeur sur deux mourra de son tabac, donc c'est vraiment pas négligeable, hein. Et quand on commence à fumer, on ne sait pas de quel côté on va être, si on va être dans celui qui risque de mourir de son tabac ou pas. Donc, c'est quand même un peu la roulette russe, cette histoire-là. Et puis, l'épidémie de tabagisme féminin commence à inquiéter, effectivement, puisque le cancer du poumon en 2017 a tué 2000 femmes en France, presque autant que le cancer du sein qui en a tué 12 000. Donc, vous voyez, le cancer du poumon, voilà, est avec malheureusement moins de traitement possible que le cancer du sein, même si on a l'immunothérapie qui se développe. Mais voilà, ça reste quelque chose qui inquiète en tout cas les pneumologues. Alors donc, ce qu'on disait, le tabagisme, dépendance physique liée essentiellement à la nicotine, hein, que j'avais expliqué. Donc cette nicotine, cette substance dans le sang qui va effectivement être responsable du besoin de la personne de fumer. Cette fumée de tabac comporte en fait 4000 à 7000 composés. Donc quand on fume, là je ne parle pas de la cigarette en soi, c'est la cigarette qui est fumée parce qu'il y a des produits qui vont apparaître lors de la combustion de la cigarette. Hein. Et bien autant la nicotine est comprise dans la feuille de tabac, autant il y a d'autres produits comme le monoxyde de carbone ou certains produits cancérigènes qui vont apparaître lors de la combustion. Et donc cette fumée de tabac qu'on va inhaler quand on fume, hein, et bien c'est une véritable usine chimique donc qui comporte de 4000 à 7000 composés. Donc essentiellement la nicotine, donc le monoxyde de carbone, donc qui est un gaz qui apparaît à la combustion, qui va avoir un risque cardiovasculaire et qui est un outil qui nous sert, nous, à évaluer la dépendance. Ce n'est pas spécifique de la cigarette, il y a du monoxyde de carbone quand il y a un chauffage mal réglé, vous savez, voilà, il y a d'autres causes pour s'intoxiquer par le monoxyde de carbone, mais voilà, une des causes, c'est le tabac. Donc il y a 50 à 70 produits reconnus comme hautement cancérigènes comme les goudrons ou les benzoapyrènes et il y a d'autres produits qui entraînent des irritations importantes pour les poumons qui est responsable d'une pathologie qui est très méconnue qu'on appelle les BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, hein, donc se traduit par des tableaux de bronchite chronique et puis s'appelle jusqu'à l'emphysème. Donc c'est aussi une des causes importantes de décès liés au tabac, donc de personnes qui finissent sous oxygène parce que leurs poumons étaient trop abîmés, les alvéoles détruites donc à cause du tabac. Donc voilà, donc rapidement on comprend bien que toutes ces molécules donnent plusieurs types de maladies. Donc les maladies principales qui vont être liées au tabac, c'est les cancers, donc pas que le poumon, un cancer du poumon, cancer de la gorge, surtout s'il y a une intoxication alcoolique associée, cancer de la vessie, cancer du pancréas. Il y a donc tout ce qu'on appelle les BPCO, toutes les maladies donc chroniques obstructives au niveau des poumons. Donc tout ce qui va être effectivement la bronchite chronique, tout ce qui va être l'emphysème. Et puis il y a également toutes les pathologies de type cardiovasculaire, les infarctus du myocarde, les AVC et l'artériopathie obliterante des membres intérieurs, ce qu'on appelle l'artérite en fait, ça va boucher les artères du nerf général, donc ça soit les artères donc au niveau du cœur, donc des coronaires, les artères au niveau des jambes, les artères au niveau du cerveau, hein, donc ça être cause donc d'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral. Et le tabac est également un facteur d'aggravation de l'hypertension artérielle. Voilà. Donc on va arrêter de parler de tout ça. Donc dans la dépendance, on a dit la dépendance physique, et puis il y a aussi une dépendance psychologique et comportementale. Ce qu'on appelle la dépendance psychologique, c'est plutôt la fonction que la personne va attribuer à la cigarette. Et donc, il va y avoir des cigarettes qui vont être des cigarettes anxiolytiques, quand je suis angoissée. Donc, les cigarettes qui vont être plaisir. Voilà, je me récompense, je rentre du travail, je me mets dans mon canapé, je fume ma cigarette, c'est ma détente. Il va y avoir des cigarettes pour limiter le poids, il va y avoir des cigarettes pour aider à mieux me concentrer quand je suis sur une problématique. Il y a des cigarettes conviviales avec l'alcool, avec les amis. Donc voilà, donc toute cette dépendance, elle est importante à évaluer en consultation, puisque moi j'ai quelques patientes qui fument 2-3 cigarettes par jour, et donc on n'est pas dans le besoin physique, on est plus dans la dépendance psychologique, voilà, et dans ce qu'on appelle le rituel aussi, la dépendance gestuelle ou comportementale. Voilà, il y a avec des effets de conditionnement, café clope, café alcool, café téléphone, café canapé, enfin voilà, ou café terrasse. Vous voyez, il y a plein d'associations comme ça qui vont être importantes à repérer si on veut aider les personnes donc à pouvoir supprimer la cigarette de leur vie. Qui, quelquefois, est un grand parcours du combattant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vous disent la cigarette, enfin, moi j'ai des gens qui vont dire ça, c'est ma béquille, donc si j'enlève la béquille, je tombe. Qu'est-ce que je mets à la place? Donc, il y a tout un travail de stratégie auquel il faut réfléchir. Ou des personnes qui vont me dire la cigarette, c'est le prolongement de ma main. Quoi. C'est, si on m'enlève la cigarette, c'est comme si on m'amputait. Ou des gens qui me disent ma cigarette, c'est mon oxygène. C'est quand même très paradoxal. Voilà, ça, c'est des choses que j'ai entendues chez beaucoup de patients. Le souci avec la cigarette, c'est pas tant la quantité que la durée. Si on multiplie par deux sa dose de cigarette, on multiplie par deux son risque. C'est un peu logique. En revanche, si on multiplie par deux la durée d'exposition, on multiplie par 20 son risque. Donc, pour résumer, il vaut mieux fumer beaucoup, pas longtemps, que fumer peu, longtemps. Voyez, parce que plus on est exposé à la fumée de cigarette, même si c'est des petites doses, plus ces substances-là vont entraîner des micro-modifications donc au niveau de muqueuse pulmonaire, au niveau de... Voilà. Et donc, c'est l'exposition très prolongée qui va finir par entraîner des lésions. Et donc, effectivement, quelqu'un qui aura fumé un an, a priori... il n'y aura pas de complications sur le long terme. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire aussi, si on résume ce que j'ai dit, que même le petit fumeur sur le long terme, il a un risque. Par exemple, vous voyez, chez une femme, par exemple, qui fumerait 1 à 4 cigarettes par jour, donc pas beaucoup, le risque du cancer de poumon, est quand même, le risque relatif est quand même x5 par rapport à quelqu'un qui ne fumerait pas du tout. Donc c'est sûr que si elle en fume plus de 25, le risque est x32, donc c'est beaucoup plus important. Mais voilà, le petit fumeur a quand même un risque, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quelqu'un qui peut boire un petit peu d'alcool, il n'y a pas de risque. En revanche, un peu de tabac tous les jours, là on ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro. Hein. C'est partie des produits pour lesquels on ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro. Alors, l'avantage en revanche, c'est qu'effectivement, si on arrête de fumer, les risques, bien sûr, de développer des maladies vont diminuer. Alors, pas immédiatement. Hein. Le risque du cancer du poumon diminue à l'arrêt du tabac. Plus l'arrêt est précoce, bien sûr, plus la réduction du risque est importante. Donc, il vaut mieux arrêter le plus tôt possible. Ça semble tout à fait logique, hein, puisqu'il y a eu le temps d'avoir moins de dégâts. En revanche, ça vaut toujours le coup d'arrêter de fumer. Notamment, on a des gens qui ont déjà des cancers du poumon, qui sont déjà sous traitement, et on voit qu'il y a une amélioration de la qualité de vie et une amélioration de l'efficacité des traitements, des chimios, des immunothérapies chez les gens qui ont arrêté de fumer. Voyez, donc il y a des gens qui me disent de toute façon moi c'est foutu. Je dis non, c'est pas foutu. Vous avez encore des bénéfices à arrêter de fumer, même s'il y a déjà effectivement une pathologie qui est installée. Pour tout ce qui est cardiovasculaire, le risque diminue beaucoup plus vite. Hein. Pareil, la BPCO. Hein. Moi, je connais des gens qui étaient sous oxygène, qui ont arrêté de fumer. Au bout de 2 ans, on a pu les sevrer d'oxygène. Donc, vraiment, il y a un avantage. Alors, il vaut mieux arrêter tôt, mais c'est toujours possible, même un peu plus tard, de le faire. Parce que derrière, il y a une efficacité. Alors, comment faire pour arrêter de fumer? Alors là, c'est un vaste débat. C'est comme pour toutes les addictions, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait une solution miracle, ça se serait, et puis la personne, bien sûr, ferait fortune. Donc il y a des solutions. Certaines vont marcher pour certaines personnes à un certain moment et d'autres non. C'est pour ça que ça vaut le coup de réessayer plusieurs fois. Moi, j'ai des gens qui viennent voir qu'il n'est pas de ça pas marché. Et je leur dis, est-ce que vous voulez qu'on réessaye avec des bonnes doses et voilà, et quelquefois ça remarche. Parce que soit la personne n'avait pas les bonnes doses, soit la personne n'avait pas la motivation, on va dire, suffisante à ce moment-là. Donc l'idéal, donc par rapport aux gens qui arrêtent seuls, on voit les personnes qui arrêtent seules, on est à un terme d'efficacité de 2% à 6 mois pour de réussite, hein, 2% pour les gens qui arrêtent seuls. On passe à 10-15% si la personne se fait accompagner. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se faire accompagner, soit par son médecin généraliste, soit par des tabacologues. Donc il y a des consultations de tabacologie dans les XAPA, dans lesquelles je travaille. Là. Moi je suis Rennes, mais il y en a sûrement aussi dans le sud de la France. Il y a... des tabacologues qui sont dans les hôpitaux aussi. Donc il faut se renseigner donc soit sur le site de l'IPES, soit sur le site de Tabac Info Service, soit sur le site du Mois sans Tabac. Sur tous ces sites-là, vous allez trouver souvent les orientations vers des consultations de tabacologie les plus proches de chez vous. Donc l'avantage d'aller en consultation avec un tabacologue, c'est que la personne va vraiment prendre le temps de faire votre connaissance. Donc on a des dossiers nous standardisés qui peuvent vraiment nous aider à à bien se connaître la personne, hein, puisque le tabagisme, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, on va dire, ça touche vraiment toute la personne, donc son psychisme, son physique, etc. Et donc, c'est hyper important de prendre le temps de comprendre quel type de fumeur le patient est, s'il fume, enfin, gros fumeur, moyen fumeur, petit fumeur, et surtout, voilà, pourquoi est-ce qu'il fume, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est sa, on va dire, son niveau anxio-dépressif à ce moment-là, quelle est sa motivation, sur quoi est-ce qu'on va s'appuyer pour l'accompagner, quelle est la forme de dépendance qu'il a, est-ce qu'il a déjà essayé d'arrêter de fumer, de quelle façon, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a tenu, oui ou non, s'il a rechuté, comment ça s'est passé, voilà. On va prendre le temps de tout analyser, est-ce qu'il y a d'autres addictions associées, comme le cannabis, comme l'alcool, des addictions comportementales comme le jeu, est-ce qu'il y a effectivement... des antécédents de pathologie psychiatrique ou une fragilité une vulnérabilité psychiatrique. Voilà, tout ça, c'est à interroger. Et c'est pour ça qu'une vraie première consultation de tabacologie, il faut compter bien 3 quarts d'heure, hein, voilà, pour bien tout évaluer. Donc, on a quelques outils de questionnaire pour permettre d'évaluer, nous, cette dépendance. On va utiliser aussi un autre appareil qui s'appelle des testeurs de CO, donc le testeur de monoxyde de carbone. C'est un appareil qui, donc la personne va souffler dans l'appareil et ça va nous donner le taux de monoxyde de carbone qu'il y a dans l'air expiré. Et donc, plus le taux est élevé, plus ça veut dire que la personne a tiré sur sa cigarette les 24-48 dernières heures. Donc, c'est le reflet de ce que la personne a fumé. Donc, si elle fume peu et qu'elle a un taux très élevé, ça veut dire effectivement qu'elle a une grosse dépendance physique et qu'elle tire beaucoup, beaucoup sur ses cigarettes. Et donc, il va falloir probablement beaucoup doser, enfin, bien doser en nicotine. Et donc, ce test de monoxyde de carbone, ensuite, aide pour le suivi, hein. Puisque quelqu'un qui arrête de fumer en 48 heures, le test de CO se normalise, ce qui fait partie des bénéfices très rapides d'ailleurs de l'arrêt du tabac. Voilà, donc tout ça va être évalué lors de la consultation d'addictologie. On va voir un peu la dépendance de la personne, physique, psychologique, son test de CO, voilà, qu'est-ce qu'elle recherche dans la cigarette, quelle croyance, on va dire, hein, elle a dans cette fonction de la cigarette dans sa vie, à quoi cette cigarette lui sert. Et ensuite, on se repose beaucoup, ce que je disais déjà, sur les motivations de la personne. Les personnes vont dire, moi, je viens pour ma santé, je viens parce que ça coûte trop cher, je viens parce que j'en ai assez là, d'être esclave de ça. Enfin, voilà. Et donc, on va travailler un petit peu cette motivation-là. Donc, en général, on demande aux personnes voilà, de nous lister un petit peu voilà, leur motivation et puis on va les renforcer en fait, par la suite. Alors, les traitements. Donc, comment on peut accompagner quelqu'un au sevrage de tabac? Donc, il existe des traitements qui sont validés, donc ce qu'on appelle les TCC, thérapies cognitivo-comportementales, donc qui sont pratiquées par des praticiens donc en TCC qui sont certifiés. Le principe va reposer sur des consultations avec des exercices pratiques où on va analyser un peu les situations où on a fumé, les pensées qui nous ont habité à ce moment-là, les comportements, et on va essayer de décrypter ça, puis de changer les pensées pour changer le comportement qui est derrière. Donc il y a tous les substituts nicotiniques qui sont commencés à être bien connus, qui sont en vente libre et qui sont remboursés donc quasiment tous, hein, sauf l'inhaleur, donc sur prescription médicale. Donc le principe, c'est logique, hein, puisqu'on a vu que la dépendance reposait essentiellement sur la nicotine. Donc le principe, ça va être d'apporter de la nicotine par une voie autre que la voie fumée, donc soit par voie transcutanée, donc c'est les patchs, soit par voie buccale, donc c'est des gommes, des pastilles, ou l'inhaleur, ou le spray buccal. Et donc dans ce cas-là, la nicotine va se déposer sur la muqueuse dans la bouche et va être absorbée donc par la muqueuse buccale, il va aussi passer dans la circulation, comme quand on fume un petit peu moins rapidement, hein, donc on n'a pas l'effet chute de nicotine, mais voilà, et donc ça va effectivement se mettre sur nos fameux récepteurs de la nicotine, et donc diminuer le manque, hein. Le but de ces substituts, ça ne va pas remplacer le plaisir de la cigarette, mais le but, c'est de ne pas avoir de syndrome de manque, de ne pas avoir de syndrome de sevrage, et donc de ne pas risquer de rechuter. Voilà, c'est pour être que ça soit plus confortable, on va dire comme ça. Et donc, il y a des médicaments de prescription. Donc les médicaments, donc le bupropion ou Vyban, qui est plus prescrit tellement, et puis le Champix ou la varenicline, donc ils sont uniquement sur prescription médicale. Donc les patchs, il existe des patchs sur 24 heures, donc ils vont couvrir aussi la nuit. C'est intéressant pour les personnes qui fument très tôt le matin, en fait, qui sont, c'est souvent un signe de dépendance de fumer très tôt le matin, puisque la nuit, en général, on ne fume pas ou moins, et donc notre taux de nicotine baisse dans le sang, et donc le matin, il y a un gros besoin de fumer pour se recharger en nicotine. Et donc c'est pour ces personnes-là, le patch sur 24 heures est intéressant, puisque comme ça, le matin, ils ne sont pas en manque de nicotine, il y a encore de la nicotine dans le sang. Voilà, ça peut donner quelquefois des petits troubles du sommeil, voilà. Mais bon, c'est intéressant hein, pour les gens qui sont des gros fumeurs. Et puis, il existe également des patchs sur 16 heures, donc là, qui diffusent. Donc, si on le met à 8 heures, il arrête de diffuser à 24 heures. Et donc, le principe, c'est le matin ou le soir, j'enlève le patch et j'en remets un autre propre le lendemain en changeant tous les jours de site d'application pour éviter les petites réactions cutanées. Quelquefois, il y a des gens qui ont de l'urticaire ou qui ne voilà, qui tolèrent pas très bien. Alors, le plus efficace, c'est de prendre le patch et d'associer en plus des pastilles ou des comprimés. Donc, au coup par coup, c'est-à-dire, j'ai mon patch et puis j'ai envie de fumer, hop, je prends une pastille, je prends une gomme à mâcher. Ce n'est pas un chewing-gum, c'est une gomme. C'est-à-dire, je mâche, je laisse fondre contre la paroi buccale. Et du coup, on peut en prendre vraiment jusqu'à... Enfin, voilà, il y a plusieurs dosages, des gommes à 2 ou 4 mg. Il y a des pastilles à 1,5 ou 2,5 mg. Voilà, donc le principe, c'est vraiment de pouvoir en prendre au coup par coup quand il y a une envie de fumer. Ça occupe la bouche et ça délivre un petit peu de nicotine. Il y a également l'inhaleur de nicotine qui va permettre d'apporter de la nicotine. C'est un espèce de petit embout en plastique blanc. Et donc, il y a l'avantage de jouer sur la gestuelle également. Et donc, d'apporter aussi de la nicotine par voie orale. Et tout en étant la gestuelle. Donc, d'une manière générale, quand on prescrit des patchs, on considère qu'une cigarette, ça fait 1 mg donc, de nicotine. Donc, je dirais quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, qui fume un paquet par jour, il faut lui mettre minimum le gros patch, c'est-à-dire le patch de 21 mg sur 24 heures, ou le patch de 16 heures de 25 mg sur 16 heures. Minimum, hein, s'il veut arrêter de fumer. Quelquefois, ça peut ne pas suffire. Nous, ça nous est arrivé avec mes collègues de mettre jusqu'à 2, voire 3 patchs. Voilà. Le surdosage est assez rare et il n'est pas très grave en soi. La personne qui serait surdosée en nicotine, elle pourrait avoir éventuellement un peu mal à la tête, la bouche pâteuse, un petit peu de palpitation, voilà, mais c'est pas grave. Voilà, il suffit dans ce cas-là, elle enlève le patch ou elle crache sa gomme. Enfin voilà, le sous-dosage est beaucoup plus fréquent. La personne qui vous dit qu'avec le patch, elle a extrêmement vite fumé, qu'elle est extrêmement irritable, là clairement, c'est qu'elle n'est pas assez dosée en nicotine. Donc, soit on augmente le patch, soit on rajoute des formes orales en fonction de l'interrogatoire. Les substituts nicotiniques peuvent être également utilisés pour réduire. Par exemple, quelqu'un qui fumerait un paquet par jour et qui veut fumer de moitié, moi je mets volontiers un patch intermédiaire de 15 mg par exemple, 14 mg, pour aider à réduire. Le risque de réduire sans avoir de nicotine à côté, c'est que la personne, vous vous souvenez, qui a son besoin de nicotine, elle va, en fumant moins de cigarettes, tirer plus fort sur ses cigarettes pour avoir sa dose de nicotine. Ça, on l'observe très bien en faisant l'étude CO. Des gens qui réduisent leur quantité de cigarettes. Et quand on fait le CO, on a le même CO. Ça veut dire qu'ils ont inhalé pareil. Pourquoi ils ont inhalé pareil? Parce qu'ils ont plus tiré inconsciemment hein, pour avoir leur dose de nicotine. Et comme il y avait moins de cigarettes, il fallait plus tirer sur les cigarettes qu'il y avait. Voilà. D'où l'intérêt, même pour une réduction, de se faire accompagner par des substituts nicotiniques. Donc le Zipan, j'en parle pas. Donc le Champix, c'est une molécule, un médicament qui est efficace, voilà, uniquement sur prescription médicale en deuxième intention. Alors, je vais aller assez vite, rapidement, sur tous les avantages du sevrage de tabac. Eh bien, il y a beaucoup d'avantages d'arrêter de fumer pour la santé. Donc, assez vite, on va récupérer du souffle, on peut récupérer de l'odorat, on peut récupérer du goût aussi, on fait des économies, bien sûr. Une fois que le sevrage est bien installé, il y a même une amélioration au niveau, on va dire, des fonctions psychiques, c'est-à-dire qu'il y a moins de stress, moins d'anxiété et moins de dépression chez les gens qui ont réussi à arrêter de fumer, mais au bout de 6 mois, une fois passé la phase un petit peu difficile. Voilà, donc là, il y a bien sûr toutes les réductions des risques en termes de maladies, une amélioration du teint également, ça c'est assez flagrant. Hein. Voilà. Un autre outil qui n'est pas un outil validé, mais qui est un outil extrêmement intéressant, c'est la vapoteuse. puisque la vapoteuse n'a pas de combustion, donc on n'a pas de monoxyde, on n'a pas de goudron. Et puis, donc on peut vapoter avec ou pas de la nicotine. Donc si on fume avec, si on vapote pardon, avec de la nicotine, effectivement, on va être on augmente nos chances d'arrêter de fumer, puisqu'on va combler ce manque de nicotine. Voilà, donc on n'a pas encore effectivement beaucoup de recul sur la vapoteuse, mais en tout état de cause, toutes les études montrent que c'est moins toxique que la cigarette. Donc ça reste une réduction de risque très intéressante.
Docteur Anne Deprin, concernant donc l'entourage des personnes qui souffrent d'une addiction au tabac, quels sont les effets? Je pense là au tabagisme, ce qu'on appelle le tabagisme passif. On peut penser par exemple aux enfants dont les parents fument, ou alors à certains professionnels, par exemple des serveurs de restaurants qui travaillent en terrasse. Pour l'instant, donc, il est autorisé de fumer en extérieur. Donc, ces serveurs, même s'ils ne sont pas fumeurs eux-mêmes, subissent le tabagisme des clients. Quels sont les effets sur leur santé?
Alors, vous avez parlé effectivement du tabagisme passif, c'est une réalité. Hein. Il y a des cas prouvés de personnes, soit de conjoints, soit de collègues qui ont eu de patients non fumeurs qui ont eu des cancers qu'on appelle du fumeur, liés à une exposition prolongée au tabagisme du conjoint, soit des collègues, d'où effectivement cette législation maintenant d'interdiction de fumer donc dans les bureaux, dans les lieux fermés, dans les restaurants, dans les bars, etc. Donc, alors on a autorisé en terrasse dans la mesure où c'est beaucoup plus ventilé en terrasse et on estime que voilà l'intoxication est beaucoup, enfin est probablement très très beaucoup plus faible en tout cas puisque c'est aéré, c'est ventilé et donc le souci c'était vraiment dans les lieux clos. Donc ça c'est depuis la loi E20 hein, donc les années 90, et puis ça s'est décliné ensuite progressivement, ça s'est renforcé, on va dire ça comme ça. Donc le tabagisme passif, effectivement, est une réalité. On constate aussi chez les enfants de parents fumeurs qu'il y a plus de risques d'infection ORL type otite ou des asthmes qui sont, alors l'asthme n'est pas déclenché, mais des asthmes en tout cas qui sont plus sévères, avec des crises plus intenses et plus rapprochées, donc chez les parents fumeurs. Donc c'est des enfants qui sont plus fragiles au niveau de la sphère ORL. On peut parler aussi du tabagisme entre guillemets passif des bébés de maman fumeuse. Hein. Là aussi, le tabagisme chez la femme enceinte a des conséquences, hein, puisque notamment le monoxyde de carbone va passer dans le sang de la maman et donc pour le bébé. Et donc, d'une manière générale, les bébés de maman fumeuse sont statistiquement de plus petit poids, avec plus de risques d'être prématurés, d'avoir des complications donc de type hématome rétroplacentaire ou voilà placenta prévia ou accouchement prématuré, toutes les hémorragies de la délivrance, enfin toutes les complications on va dire de potentiellement liées à l'accouchement, à la grossesse sont majorées chez les femmes enceintes, hein. De même que le tabagisme va diminuer la fertilité et chez l'homme et chez la femme, heureusement de façon réversible bien sûr à l'arrêt du tabac. Donc c'est sûr que le tabagisme passif oui, est une réalité qui est prouvée, pour lequel les lois ont été faites. Hein, à l'origine c'était pour protéger les non-fumeurs. En revanche, pour l'instant, par rapport au vapotage, donc les gens qui vapotent, même s'il peut y avoir une nuisance, on va dire, de voir des fumées, des gros nuages de fumée souvent odorantes qui peuvent sentir le frestagada ou je ne sais quel arôme, hein, eh bien, a priori, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent une toxicité du vapotage passif. Je dis bien pour l'instant, voilà. Donc, puisqu'il n'y a notamment pas de CO, pas de combustion, voilà. Donc voilà, c'est sûr que effectivement, pour ceux qui fument, donc pareil, on voit très plus beaucoup moins de personnes comme avant fumer dans les habitats de voitures ou alors les gens aèrent. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même un énorme changement de mentalité parce qu'il y a une connaissance en fait maintenant des phénomènes. De risque pour la santé, pour autrui aussi. Et donc, effectivement, quand on explique aux jeunes, moi qui ai fait mes études médicales avec des médecins qui fumaient dans les couloirs, voilà, ça, quand on dit ça aux jeunes étudiants en médecine, ils ouvrent des grands yeux, mais ça, c'était une réalité d'il y a 25 ans. Hein. Donc voilà, il y a quand même une bonne évolution, on va dire, dans le bon sens. Voilà, et donc le tabagisme passif, c'est vrai qu'il est beaucoup moins présent et heureusement qu'auparavant.
Alors, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Mabel. Mabel, c'est à vous.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
En fait, moi, je voudrais savoir combien, enfin, qu'on, si on peut refumer. Mon mari a arrêté il y a 15 ans maintenant.
Oui.
C'était vraiment, vraiment très, très dur
Oui.
pour tous parce que, bon, voilà, c'était un gros fumeur.
Oui.
Il finissait 20 cigarettes par jour.
Oui.
Et bon, finalement, il a arrêté. Mais il y a 2, 3 ans, il m'avait dit un jour, en rentrant à la maison de travail, il m'avait dit, tu sais que j'ai un cœur cherché dans mes poches, mon briquet, mes cigarettes. Enfin, j'ai un peu paniqué.
Ouais.
Bon, ça fait 15 ans, c'est vrai.
Ouais.
Mais
Alors.
est-ce qu'il peut recommencer?
Ouais. Alors, ouais. Alors, d'abord, il faut féliciter votre mari, parce que c'est très dur d'arrêter de fumer, surtout si on est un très gros fumeur, donc il faut le féliciter. Moi, je félicite les gens, parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Ça met, voilà. Et donc, déjà, il faut vraiment le féliciter. Après, plus le temps passe, moins le risque de rechute est fort, mais il n'est jamais nul, d'accord? Et ce qui est important, voilà, qu'il faut savoir, mais après, voilà, il y a beaucoup plus de risques de rechuter à 1 mois qu'à 15 ans. Mais voilà, après, ce qu'il faut, c'est être extrêmement vigilant. Là, votre mari, il est pas dans le, il n'y a plus de dépendance physique au bout de 15 ans. Après, le risque, effectivement, c'est que ça soit, on va dire, il y en a qui vont refumer bêtement, on va dire, soit pour tester, pour voir si effectivement ce que ça leur fait, parce que ça fait longtemps, etc. Ou alors, voilà, avec des amis, ils disent, bah, tiens, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ce qu'il faut quand même être conscient, c'est comme pour l'alcool, comme pour les autres addictions, c'est que quelqu'un qui a été fumeur, quelque part, le corps, il va se souvenir. Et donc, s'il recommence à fumer, il y a quand même le risque que très vite, il y a le besoin qui se réinstalle, voilà, beaucoup plus que si c'était la première fois. Donc, il faut rester vigilant. C'est juste ça. Et c'est normal qu'il puisse encore avoir des pensées. Moi, j'ai des patients, ça fait 20 ans, et ils me disent, j'ai encore la nostalgie de la cigarette. Quelquefois, ils rêvent encore la nuit de temps en temps, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, ils rêvent encore qu'ils fument. Donc, c'est normal que de temps en temps, il a encore ses réflexes de mettre la main à la poche, de chercher son briquet, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va rechuter, mais voilà, il faut qu'il reste extrêmement vigilant et surtout qu'il voilà, qu'il prenne conscience que s'il fume une cigarette, le risque est assez important de repartir. Voyez. Donc, il ne faut pas. Faut pas reprendre cette première cigarette-là. Mais c'est pas anormal. Il y a quand même beaucoup de patients, moi, qui me disent, après des années de sevrage, qui me disent, j'ai encore de temps en temps des envies, j'y pense encore de temps en temps, mais je sais que je dois pas. Donc, voilà. Mais qu'il y a encore des envies ou des réflexes, surtout s'il a fumé pendant longtemps beaucoup, c'est pas anormal. Voilà. Mais il faut vraiment, plutôt que de lui dire, surtout, refume pas, dites-lui, c'est super que tu aies arrêté de fumer. Voilà, il faut vraiment le valoriser sur cette démarche qu'il a faite. Et puis, quand il y a des envies, lui dire, regarde tout ce qui est positif du fait que tu as arrêté de fumer. C'est ça qu'il faut
On
mettre en
essaie de
évidence.
voir ensemble, oui, parce qu'il avait fait des radios de poumons, il
Oui.
bombe bien, enfin,
Ben voilà.
tout ce qu'il a
Et puis,
gagné.
bien sûr, le souffle, et puis la fierté, puis il gagne du temps, parce qu'on passe du temps à fumer. Et puis, les économies. Hein, dites-lui, regarde tout ce
Aussi.
qu'on a pu faire depuis que tu as arrêté de fumer, peut-être des petits voyages, des petits restos, des petits. Enfin voilà. De valoriser tout
Valoriser.
ça. Voilà. Mais ne pas. Voilà, ça peut arriver. Moi, j'ai pu dire, ça peut arriver, effectivement, d'avoir de temps en temps des pensées, même des rêves. Ou des. Moi, j'ai un monsieur qui s'est réveillé angoissé. Il m'a dit, j'irais que je fumais. Du coup, j'étais angoissée. Il me dit, oh, est-ce que j'ai vraiment fumé ça depuis qu'il avait fumé ou pas? En fait, il n'avait pas fumé. Mais voilà, c'est pour dire que ça peut être encore présent. Voilà. Donc, ne pas s'en inquiéter. Ça arrive, mais restez vigilant. Voilà, c'est ça que je dirais. Et puis vraiment, à chaque fois, se redire, voilà ce que j'ai gagné et ce que je ne veux pas reperdre.
Oui.
Est-ce que j'ai
D'accord.
répondu à votre question? Ça va?
Oui. Très bien.
D'accord. Je
Merci
vous en prie.
beaucoup.
Au revoir.
Au
Merci,
revoir.
ma belle. Au revoir.
Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en conclusion?
Alors, juste vraiment que de dire à tous les fumeurs éventuellement qui nous écoutent que ça vaut le coup d'essayer. C'est comme au loto, si on n'essaye pas, on ne gagne pas. Bah, si on n'essaye pas d'arrêter de fumer, on n'y arrivera pas. Et de se faire accompagner. Donc, ne pas hésiter. Actuellement, c'est encore le mois sans tabac. Il y a des sites Facebook, c'est Je ne fume plus, une page Facebook très pleine de bienveillance, pleine de bons conseils qui peut aider hein, vraiment des personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Donc, ou aller consulter, vraiment leur dire qu'il y a toujours un intérêt à arrêter de fumer, même si on, voilà, même si on se dit, oh là là, c'est pas le moment, bah, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Il y a tellement de, voilà, de bénéfices derrière que vraiment ça vaut le coup, et de se faire accompagner et puis de réessayer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. En fait, ne pas dramatiser la rechute. Hein. La rechute fait partie du parcours en addicto. Hein. Moi, c'est rare des gens qui arrivent la première fois à arrêter de fumer. Voilà. Et bien, utiliser éventuellement ces rechutes comme apprentissage, comme expérience, en se disant, voilà, dans telle circonstance, je sais que je suis fragile, je sais que je rechute, donc il faut que je fasse attention la prochaine fois, etc. Voilà. Donc vraiment, essayez, parce que rarement les fumeurs sont satisfaits de leur tabac, et souvent ils ont peur, ou en se disant, je ne veux pas y arriver, effectivement, ce n'est pas facile, mais c'est possible, et faites-vous accompagner, et puis vous ne le regretterez pas. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Anne Deprin. Et puis, à une prochaine fois pour une autre émission sur les addictions. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.